Audiolib présente L'arme à l'œil de Ken Follett. Traduit de l'anglais par Robert Bray. Lu par Philippe Résimont. Préface. Dès le début de 1944, l'espionnage allemand rassemblait des éléments indiquant la présence d'une vaste armée dans le sud-est de l'Angleterre. Les avions de reconnaissance rapportaient des photographies de casernements, d'aérodromes et d'escadres de navires dans le Wash. On pouvait voir aussi le général George S. Patton, portant ses traditionnels jodhpurs roses, promener son bulldog blanc. On pouvait constater des périodes d'activité sur les ondes, recueillir des messages échangés par les régiments cantonnés dans la région. Et les espions allemands qui opéraient en Grande-Bretagne confirmaient cet ensemble de renseignements. Il n'y avait bien sûr pas la moindre armée. Les navires étaient des simulacres de bois et de toile caoutchoutés. Les casernements, un décor de cinéma. Patton n'avait pas un seul homme sous son commandement. Les messages radio ne voulaient rien dire. Les espions étaient des agents doubles. Le but était d'amener l'ennemi à se préparer en vue d'un débarquement sur la côte du Pas-de-Calais, de façon qu'au jour J, l'assaut réel sur la Normandie ait l'avantage de la surprise. C'était une colossale duperie presque impossible à mener à bien. Littéralement, des milliers de personnes prirent part à la réalisation de cet incroyable trucage. Ça aurait été un miracle si aucun des espions de Hitler n'était parvenu à apprendre la vérité. Mais y avait-il réellement des espions? À l'époque, les gens se croyaient entourés de membres de ce qu'on appelait la cinquième colonne. Un mythe est né après la guerre, qui voulait que le MI5 eût arrêté l'ensemble des espions dès Noël 1939. La vérité serait plutôt qu'ils étaient peu nombreux, et qu'en effet, le MI5 les avait arrêtés presque tous. Mais il suffisait d'un seul. On sait que les Allemands ont bien vu les signes que l'on désirait qu'ils voient en East Anglia. On sait également qu'ils ont flairé une ruse et qu'ils ont fait l'impossible pour découvrir la vérité. Tout cela appartient à l'histoire. Ce qui va suivre est pure fiction. Cela dit, on peut croire que quelque chose d'assez semblable à cette fiction a dû se produire. Camberley, Surrey, juin 1977. Les Allemands se sont presque tous trompés. Seul Hitler avait deviné la vérité. Mais il a hésité à suivre son inspiration. A.J.P. Taylor, Histoire d'Angleterre, 1914-1945. Première partie. Chapitre 1. Ce fut l'hiver le plus rude que l'on eût connu depuis 45 ans. Dans la campagne anglaise, la neige ensevelissait les villages et la Tamise était prise par la glace. Un certain jour de janvier, le train Glasgow-Londres arriva à Houston avec 24 heures de retard. La neige et le blackout combinés rendaient la circulation périlleuse. Le nombre des accidents était multiplié par deux et les gens disaient en plaisantant qu'il était plus dangereux de conduire une Austin dans Piccadilly la nuit que de franchir la ligne Siegfried avec un tank. Puis vint le printemps, et il fut resplendissant. Les barrages de ballons flottaient paresseusement dans le ciel bleu, et les soldats en permission flirtaient dans les rues de Londres avec des filles aux bras nus. Bref, la ville ne ressemble guère à la capitale d'un pays en guerre. On en aperçoit certes des traces, et Henry Faber, roulant en bicyclette de la gare de Waterloo à Highgate, ne manque pas de les remarquer. Les remparts de sacs de sable devant les principaux bâtiments publics, les tunnels métalliques des abris Anderson dans les jardinets de banlieue, les affiches de propagande en faveur de l'évacuation et celles indiquant les précautions à prendre en cas d'alerte aérienne. Faber note ce genre de choses. Il est bien plus observateur que la moyenne des employés de chemin de fer. Il voit une foule de gosses dans les jardins publics et il en conclut